Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante.
Komm mit mir aus Floß. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Und Femme. C'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue sur Rome et Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis. Nous nous retrouvons en direct depuis nos studios de Ferney. Et vous savez bien que lorsque nous sommes en direct, vous pouvez nous appeler, c'est tout simple. Vous faites le 4 50 40 51 41, je répète le 4 50 40 51 41 059, si vous appelez depuis la Genève voisine. Alors aujourd'hui, je vous propose de réécouter l'entretien que j'avais eu avec Anne Bizan et Francis Cacal, qui sont les deux femmes permanentes de la Compagnie du Revoir. La Compagnie du Revoir, c'est une troupe essentiellement de femmes à l'origine, troupe de théâtre qui travaille à Genève et qui avait monté en janvier 1996 une pièce absolument magnifique qui a pour titre « Tableau d'une exécution ». Ce texte est écrit par un Anglais, Howard Baker, tout à fait contemporain, et que la Compagnie du Revoir a choisi pour cette création de janvier 96. À l'époque, le rôle principal de Galaxia, je vous en parle tout de suite, était tenu par Francis Cacal. Il y avait une autre distribution tout à fait exceptionnelle et brillante aussi autour de Francisca. Et ce spectacle avait vraiment déclenché l'enthousiasme de beaucoup de gens parce que le texte est d'une force extraordinaire dans son implication de la société d'aujourd'hui. En gros, c'est l'histoire de la République de Venise, donc nous sommes au XVIe siècle, République de Venise qui vient de gagner la bataille de Lépante, c'est une bataille navale contre les Turcs, et le Doge décide de faire peindre cette victoire et pour cela passe commande à une femme peintre, Galactia, qui donc devra réaliser ce tableau destiné à célébrer la victoire de la République de Venise sur les Turcs. Mais comment une femme défend sa vision de la guerre et défie le pouvoir avec pour seule arme son pinceau? Tel est le propos de la pièce écrite par Howard Baker et mise en scène par Anne Bizan, donc et proposée par la Compagnie du Revoir. Alors le rôle de Galaxia, c'est une femme étonnante qui va envers et contre tout aller jusqu'au bout de ses idées parce que vous pouvez le deviner que sa vision de la guerre et de la soi-disant victoire de la République de Venise sur les Turcs ne va pas forcément plaire au Doge et à la République de Venise, mais elle va aller vraiment jusqu'au bout de son propos, de ses choix, de sa vie. Et autour d'elle vont se situer les autres personnages, que ce soit le Doge, que ce soit son amant, que ce soit sa fille. Enfin, toutes sortes de personnages qui mettent en valeur ses propres choix et montrent les choix que peuvent faire d'autres personnes dans la société. Alors que le propos se tienne à l'époque du XVIe siècle n'a aucune espèce d'importance parce que bien évidemment, chaque mot, chaque ligne de ce texte respire une critique, une satire de la société, de notre société contemporaine. Et à l'époque, le personnage était tenu magistralement par Francis Cacal. Aujourd'hui, ce spectacle est repris au Théâtre Saint-Gervais, où d'ailleurs il avait été créé en janvier 1996. La première, c'était hier soir, mardi 8 avril. Le spectacle sera joué jusqu'au 13 avril. Et malheureusement, il m'est impossible de refaire de nouveaux interviews parce que du mercredi à mercredi, ça ne se produit pas. Et en l'occurrence, il aurait peut-être fallu refaire quelque chose parce que qui sait comment Anne Bizan a conçu la reprise de ce spectacle. Ceci, je ne le sais pas. La seule chose que je sais, c'est que malheureusement, Francis Cacal n'a pas pu reprendre le rôle de Galaxia et que c'est Doris Ittig qui va interpréter le rôle de Galaxia. Donc une découverte nouvelle à faire, celle du personnage tenu par une autre femme que lorsque le spectacle avait été créé en janvier 96. La distribution autour de Galaxia reste la même, c'est Frédéric Landenberg, Christian Scheidt, Edmond Vuillot, Nathalie Quenet, Laure Villameau, Vincent Aubert, Barbara Becker et Christophe Nicolas, qui est une brillante distribution autour de ce personnage incroyable qu'est Galaxia. Une équipe très féminine quant à la réalisation du spectacle au niveau technique. Les décors sont de Sylvia Faleni, les costumes de Yannick van der Schuren et la lumière Liliane Tondelier. Et une musique créée pour l'occasion, pour le spectacle, ça c'est Michel Winch, compositeur bien connu sur la place de Genève, que vous découvrirez d'ailleurs tout au long de notre rencontre en janvier 96 avec Anne Bizan et Francis Cacal, puisque c'est des extraits du spectacle qui ponctuent la discussion que nous avions eue à l'époque en direct avec elle dans nos studios. Alors, peut-être faut-il reprendre un petit peu l'historique. Le tableau d'une exécution en janvier 96 était le sixième spectacle créé par la Compagnie du Revoir. Après cela, le Théâtre Saint-Gervais a proposé à la Compagnie du Revoir de créer un nouveau spectacle que la Compagnie du Revoir prévoyait de faire, de créer un spectacle à propos de Anne-Marie Schwarzenbach, cette Suissesse qui a fait des voyages impressionnants à une époque où pas de nombreuses femmes allaient sur les chemins, qui est écrivaine, poétesse dans une famille ultra-conservatrice et xénophobe de la Suisse allemande. Et puis, malheureusement, la Compagnie du Revoir n'a pas trouvé l'argent suffisant pour pouvoir monter ce spectacle et nous a proposé une reprise de leur tout premier spectacle qui était WC Dame, qui avait été créé en 1984, je crois. Et c'est une nouvelle version de WC Dame qu'elles nous ont proposée dans la deuxième partie de 1996. Alors, revenons à 15 mois plus tôt et révoquons ce qu'est ce sixième spectacle proposé par la Compagnie du Revoir. Tableau d'une exécution, texte écrit par l'auteur contemporain anglais Howard Barker et mise en scène par Anne Bizan, avec à l'époque dans le rôle de Galaxia, personnage central de la pièce, Francis Cacal. Et je les avais rencontrées toutes les deux. C'était donc au mois de janvier 1996 et je vous propose de redécouvrir ce qu'elle nous disait. Et bien évidemment, il ne vous restera plus qu'à aller voir la pièce d'ici au 13 avril pour voir ce qui peut-être a changé. Mais notre discussion portait sur beaucoup plus largement ce qu'est le travail de la Compagnie du Revoir et quel fut ce choix en particulier autour de ce texte. Alors, tableau d'une exécution à l'époque, sixième spectacle de la Compagnie du Revoir, Anne Bizan, Francis Cacal.
Oui, c'est la sixième production de la Compagnie du Revoir. C'est le deuxième texte en fait que nous montons, puisque jusqu'alors on avait commencé par des créations maison, je dirais, où on était beaucoup parti du silence. Et puis depuis la saison 94-95, on a abordé en fait des vraies œuvres de théâtre contemporaines toujours, parce que ça c'est une ligne à laquelle on tient, c'est de faire découvrir la pensée finalement contemporaine à travers le théâtre, par des auteurs qui ne sont pas forcément encore très, très connus du public roman, genevois. C'est le cas avec Howard Barker, donc.
On est pas bien. Exact.
Qui est un auteur très connu dans son pays, donc en Grande-Bretagne, qui a une œuvre derrière lui gigantesque. Il a écrit plus d'une trentaine de pièces. Il a écrit des essais sur le théâtre. Il a écrit des poèmes, des scénarios de films et de télévision. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir de faire un travail comme ça. De faire connaître un auteur inconnu et surtout celui-ci en l'occurrence.
Alors, la Compagnie du Revoir, en tout cas pour ce qui nous concerne et me concerne, on la connaît depuis longtemps. On avait découvert le tout premier spectacle qui était WC Dame. Je n'ai pas réussi à replacer dans le temps quand était WC Dame. C'est il y a très longtemps ou il n'y a pas très longtemps?
Il y a 9 ans. Très précisément, 9 ans à la même époque.
Non, c'est vrai, c'est
vrai. Ouais, absolument, c'était en janvier 87.
Ah, c'est incroyable. Donc c'était aussi au début où je faisais de la radio. Eh bien, depuis WC Dame jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de découvrir presque tous les spectacles de la Compagnie du Revoir. Je dois avouer moi-même que je n'ai pas vu Goutte dans l'océan, le texte de Fassbinder, qui était donc le dernier spectacle avant celui-là, que j'ai vu tous les autres. Et que
Il y a quelque chose qui est typique de la compagnie du Revoir dans tout votre parcours. Il y a un choix de travail. Anne, tu viens d'en donner quelques esquisses. J'aimerais bien que tu approfondisses un petit peu ça, et Francisca aussi, parce que vous êtes les deux finalement qui restaient les permanentes. Parce qu'on a vu des comédiennes différentes. Au début, vous nous racontiez que l'idée était peut-être d'échanger les rôles parfois, que certaines s'échangent à la mise en scène, etc. Aujourd'hui, il ne reste que Francisca Cal et Anne Bizan. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est des choix? Est-ce que c'est les histoires de la vie qui ont fait que la compagnie aujourd'hui, c'est ce qui reste le pilier et la permanence, c'est Francisca Cal et Anne Bizan?
Oui, il y a eu bien sûr une évolution, parce qu'effectivement, ça fait bientôt 10 ans que la compagnie du Revoir a été créée. Donc, c'est effectivement quand même une durée qui permet beaucoup d'aventures différentes. Et il y a eu un moment où le groupe de départ, nous étions donc 4, s'est scindé. À un moment caractéristique, puisque on abordait une création qui s'appelait donc Les femmes et les enfants d'abord, et où finalement Francisca et moi-même avions envie de préciser un peu notre engagement politique au sens large, hein, évidemment, c'est-à-dire de préciser le lien que l'on cherche à créer entre notre activité artistique et le public. Cela, notamment au travers de la représentation des femmes. Et c'est vrai que lorsqu'on en a parlé dans le groupe d'alors, eh bien, il y a eu des débats où on s'est rendu compte qu'au fond, on n'était plus tout à fait sur la même ligne. On n'avait pas forcément envie de faire les mêmes choses. Et voilà, alors ça, c'est vrai qu'il y a eu un moment donc, décisif à ce moment-là où... c'est vrai, le choix du théâtre contemporain s'est précisé, le choix d'aller aussi vers des textes qui étaient peu connus et qui traitaient aussi de sujets le plus possible en lien avec l'actualité ou avec l'esprit du temps. C'est un peu une généralité, et puis ça, c'est clair qu'il y a, je pense, peu de gens de théâtre qui diront qu'ils veulent faire du spectacle qui ne parle pas d'actualité, mais... C'est vrai qu'on a, bon là, c'est vrai, la pièce de Fassbinder traitait d'exclusion. La pièce ici de Barker, elle parle donc des relations entre l'artiste et le pouvoir, mais elle parle aussi beaucoup de fidélité à ses idées, de la trahison,
donc, la guerre.
La guerre
que vous aviez déjà appris pour les femmes et les enfants d'abord. Voilà.
Donc oui, c'est un peu dans ce sens qu'on voit, quoi.
Et au niveau du travail de la compagnie, parce que, si je me souviens bien, aussi au début, vous faisiez plus des mises en scène dites collectives, tout le monde participait, le rôle de la personne qui assurait la mise en scène était moins forcément prédominant, enfin, ou clarifié comme étant un rôle particulier. Il y a eu beaucoup de créations collectives, donc vous ne partiez pas de texte, vous avez vous-même créé certains textes.
C'est-à-dire qu'il faut quand même remettre un peu les choses en place. On partait des créations collectives, c'est-à-dire qu'on n'était pas quatre à faire de la mise en scène, c'était quand même Anne qui faisait la mise en scène. Mais nous alimentions le thème par des improvisations, par des réflexions, par l'apport de textes, de lectures, de choses différentes comme ça, et par simplement une implication quotidienne dans la vie. Hein, c'est quand même ça aussi, un artiste, c'est quelqu'un qui mange la vie, quoi, voilà. qui va, qui regarde, qui s'implique, qui s'engage, qui dit oui, qui dit non. C'est tout ça. Et Anne a toujours été la personne qui gérait tout ça. C'est-à-dire qui mettait en forme, qui écrivait le spectacle. Avec nous, en tant que matériaux humains. Et ce qu'il y a toujours de magnifique, et ce qu'on veut garder dans la compagnie du Revoir aussi, c'est l'acteur est au cœur des choses. C'est-à-dire qu'on part du corps de l'acteur, de la voix de l'acteur, et à travers ça, on développe. C'est-à-dire que l'acteur n'est pas un prétexte, c'est le cœur. Et bon, dans le spectacle qu'on vient de faire maintenant, ce qui est absolument magnifique, hein, et ce qu'on ne sait pas au départ quand on commence, quand on engage les répétitions, c'est qu'ici, tout est complet. C'est-à-dire que c'est vraiment un spectacle de femmes. La scénographie, c'est une femme. Les lumières, c'est une femme. La mise en scène, c'est une femme.
Les costumes,
c'est une femme. Le premier rôle, c'est une femme.
Mais pourtant, il y a des hommes. Alors qu'au début de la compagnie du Revoir, il n'y avait pas d'hommes.
Oui, oui, oui.
Alors, oui. Est-ce qu'il y a eu un changement à ce niveau-là aussi, ou bien est-ce que c'est simplement les choix de texte qui font qu'il y a des... La femme n'existe pas toute seule, elle se confronte au monde, et c'est pour ça qu'il y a finalement il y a eu aussi des hommes dans votre spectacle.
Le texte est un homme d'ailleurs.
En plus, oui, ça on en reparlera.
Oui, ça. Non, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ailleurs de choix d'exclure les hommes au départ. C'est vrai qu'on avait simplement besoin de préciser notre place, notre langue, et donc on s'est donné cette chance, disons, sur les deux premières créations de ne travailler qu'avec des comédiennes femmes, mais c'était, en même temps, il y avait des musiciens sur scène, donc je veux dire, ça n'a jamais été sectaire ni sexiste. mais c'est vrai que suivant le propos qu'on veut tenir, c'est clair qu'il faut tout le monde, quoi, il faut réunir tout le monde. Mais c'est vrai que c'est aussi important de donner la place à plusieurs énergies. Dans le spectacle que nous avons monté maintenant, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui entourent le spectacle et qui ont fait des choix, c'est pas au niveau de la scénographie, de la lumière, des costumes, etc. Mais il y a également un musicien homme, Michel Vinch. Je lui ai demandé aussi à lui, j'aurais pu choisir une musicienne pour faire... Mais c'est vrai qu'il m'avait semblé plus juste de mélanger les genres, enfin, dans le sens de oui, il y a toujours deux principes qui doivent coexister.
Mais lui, il a choisi une chanteuse aussi pour part sa musique, qui est Christine Chalère. Donc, voilà. Encore une fois, une femme de plus.
Oui. Bon, ça, c'était en lien avec le personnage. Hein. Uh-huh. Je lui ai demandé une voix, je lui ai demandé des cordes, des choses comme ça. Et il a fait une composition à partir de certains éléments.
Magnifique aussi la musique.
Ah oui, tout à fait. Mais c'est important, effectivement, que chacun soit représenté pour ses qualités propres. Hein.
Mais quelque part, vous êtes un peu, avec la Compagnie du Revoir, à l'image, si je fais une image un peu simpliste, vous m'excuserez, mais un peu du mouvement des femmes. Les femmes aussi ont eu besoin, à un moment donné, de trouver leurs paroles et leurs mots et leur place seules. Et puis après, il fallait, bien sûr, leurs propos, leurs débats nécessitaient la société en entier, pas elles toutes seules, évidemment.
Oui, c'est vrai.
Mais... Il fallait trouver l'énergie.
Je crois que c'était très important, oui. Et puis surtout, c'est ça, de se dire, mais on peut très bien le faire aussi entre nous. Hein. On peut très bien... on a besoin d'aucun conseil, on a besoin d'aucun paternage, disons, pour monter nos spectacles. Et oui, c'était tout à fait conscient aussi, hein, cette vision-là des choses. Hein. Voilà, c'était pas pour exclure les hommes, mais c'est vrai que c'était important qu'on se consolide aussi entre nous.
Oui, d'ailleurs, VC Dames... c'était ça, c'était un lieu typiquement féminin, donc là il y avait, c'était complètement normal qu'il n'y ait que des femmes, oui. Et ça nous permettait d'explorer justement des figures, des tas de figures différentes, des comportements et tout ça, et c'était important de passer par là. Ensuite dans Rumeur, il n'y avait que des femmes dans le jeu, par contre là, moi je sentais déjà la limite, il manquait une part masculine sur le plateau, dans le jeu, dans le rapport, pour faire rebondir les choses, pour ensuite naturellement il s'est produit ce qui s'est produit, c'est-à-dire que Anne et la compagnie a rassemblé des hommes aussi pour jouer.
Vous êtes dans Remue Ménage, nous sommes en compagnie de Francis Cacal et Anne Bizan de la Compagnie du Revoir, en spectacle à Genève, au Théâtre de Saint-Gervais, avec Tableau d'une exécution.
Alors, au niveau des textes, on le disait tout à l'heure, Vécédame était un des textes que vous avez, vous, monté. Hein, je crois que Les femmes et les enfants d'abord aussi, c'est un scénario original aussi, écrit par toi, Anne.
Oui, c'est-à-dire imaginé par moi, travaillé là également en collaboration avec les comédiens au moment des répétitions. Et puis également, il y avait encore un intervenant qui était Joël Pasquier, qui avait fait tout un travail d'adaptation à partir d'un montage de textes d'Eschyle et de Ripide.
Et puis, je suppose que Rumeur était aussi un texte écrit par vous.
Oui, c'est ça, un scénario original.
Général. Et puis, il y a eu des textes d'auteurs. Il y a eu le dernier Fassbinder et aujourd'hui Barker. Est-ce que la rencontre avec Howard Barker est une suite logique de tout votre processus ou c'est une rencontre choc que vous avez faite un jour comme ça, au détour d'une expérience théâtrale ou d'un voyage théâtral en Grande-Bretagne?
En fait, au détour d'une étagère de librairie, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, on lit constamment en fait, des pièces de théâtre et puis tout à coup, on est tombé sur celle-ci. C'est un choc parce qu'en fond, il y avait avec notre univers, une rencontre possible, vraiment presque évidente, hein, c'est-à-dire la part faite justement à la représentation féminine, le thème abordé. Moi, je l'inscris plutôt dans la continuité, en fait, même si au niveau de la forme, par contre, cette pièce nous oblige à éclater un petit peu notre langage scénique habituel, si je puis dire, parce que je crois qu'on n'en a pas un qui est figé. Je crois qu'on était tout le temps en train d'essayer de le développer, de lui donner des couleurs différentes. Donc, mais c'est vrai que bon, pour moi, c'est en même temps, ça s'inscrit un peu dans la suite, presque un peu logiquement par rapport à l'esprit aussi, parce que c'est une pièce qui n'est ni un drame ni une comédie, qui a un propos grave et qu'en même temps il y a une forme de burlesque qui s'ajoute au fil des scènes. Et ça, c'est ces deux composantes effectivement qu'on a toujours essayé de développer dans nos créations, ce mélange de genres.
Mais si Fassbinder est bien évidemment un personnage que l'on connaît bien chez nous, Barker ne l'est pas. Je pense, je ne le connaissais pas, mais je crois que je ne dois pas être la seule. est-ce qu'il y a cette envie de faire découvrir aussi un auteur que personne ne connaît? Parce qu'il est, bon, vous le dites, peu traduit, donc on connaît peu son œuvre en français. Est-ce que les gens lisent si peu des textes dans des langues étrangères, en anglais en l'occurrence? Est-ce que c'est aussi cette volonté de faire découvrir des auteurs qu'on ne connaît pas? Il y a peu d'auteurs de théâtre contemporain qui arrivent jusqu'à nous.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que on a aussi un petit peu plus cherché du côté des non-francophones, hein, parce que on ne peut pas dire qu'on ait une connaissance exhaustive des auteurs contemporains francophones. Hein, mais c'est vrai qu'il y a un type d'arguments et de langage qui se ressasse un peu, je trouve, dans le théâtre français contemporain. Alors, c'est vrai que c'est un privilège et c'est très stimulant tout à coup de tomber sur une pièce dont on sait qu'elle est peu connue, voire pas du tout. C'est très stimulant de se dire on va monter une pièce que personne ne connaît et on va offrir cette première lecture au public.
Vous nous faites découvrir dans le petit document de presse qui accompagne votre spectacle que les pièces de Barker ont à un moment donné été jouées par une compagnie qui s'est créée que pour ça.
Oui.
Est-ce que vous imaginez la Wrestling School,
c'est ça, si je me souviens,
école de lutte, on traduirait littéralement. Est-ce que vous imaginez, vous, la compagnie du Revoir, vous mettre au service d'un auteur comme cette compagnie, par exemple, comme ça?
En tout cas, ce que l'on souhaite, et ce qui est d'ailleurs en chantier actuellement, c'est de travailler en collaboration avec un auteur. Ça, c'est évidemment la très ancienne tradition de shakespearienne, ou même, c'est la même chose chez Molière, quoi, le fait qu'une troupe travaille vraiment en rapport de proximité avec un auteur. Je crois que ça, c'est une des composantes essentielles de la création théâtrale, quoi, et qui s'est perdue. Enfin, il s'est perdu d'une façon générale, mais c'est vrai que ça se fait quand même encore, hein, ces collaborations. Se dévouer à un seul auteur, ça, je pense pas, très franchement. Je crois on est trop attaché à une certaine liberté pour ça. Mais par contre, là, effectivement, on travaille actuellement en collaboration avec une femme qui s'appelle Hélène Besançon. Et on est en train de travailler justement sur une pièce dont le sujet central est un personnage qui s'appelle Anne-Marie Schwarzenbach. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Tout à fait. Tout à fait.
Voilà.
Dossier, on a écrit Anne-Marie Schwarzen... Non, dans un article, on a écrit Anne-Marie Schwarzenhof. Je me suis dit, c'est qui celle-là?
Donc ça, c'est, c'est la première expérience qu'on va faire de ce type. Et c'est vrai qu'alors ça aussi, c'est une belle aventure.
Allez, viens! Ne sois pas un homme. Il n'y a pas de vérité possible là où sont les hommes.
J'ai pas confiance, vous avez l'œil fou.
Mais arrête de gigoter, sortir d'ici ne t'amènera à rien.
J'ai peur de vous.
Peur de moi? Moi? Mais pourquoi?
Vous voulez me faire du mal.
Jamais.
Vous allez tout ruiner.
Quoi? Quoi?
Ma paix avec la vie.
Écoute, regarde-moi, regarde mon visage. Comment le trouves-tu? Est-il honnête, bon, généreux? Est-ce un bon visage?
Ça peut aller.
Mais bien sûr, je connais mon visage. Je l'ai pas des milliers de fois. Je ne suis pas belle, je le sais, mais je ne voudrais pas de la beauté.
Bien sûr que non.
Je n'ai pas confiance en la beauté. C'est une invention et un mensonge. Fais confiance à mon visage. C'est celui d'une femme qui a vécu un peu. Oh, je n'ai pas été coupée en deux comme toi, mais j'ai pris quelques coups moi aussi. Et je peux te dire que je n'ai jamais été en paix avec la vie. Et que je ne serai jamais, parce que cela n'existe pas. Et ceux qui le prétendent ont endormi leur conscience et ankylosé leur souffrance avec de piteux rituels. Comme ton boniment. Mais regarde-toi. Qui t'a fait cela, Brodo? Et pourquoi? Je vais peindre ton supplice pour toutes ces foules qui rient de ta misérable apparence. Allons, allons. Nous devons être braves.
Cauchemar.
Oui!
Sous les draps, au fond des draps, des bras et des jambes.
Oui, oui, oui!
Des os qui marchent, l'air est rempli d'eau qui craque et qui se rompent, de rames qui volent, les os qui courent.
Continue!
Et la chair humaine qui tombe de partout. Il pleut de la viande humaine, des morceaux de viande qui dansent tout autour. Dans mon...
Ah! Je vais tout peindre. Toutes tes terreurs et leur pourquoi, d'accord?
S'il vous plaît, rendez-moi mon petit bout de...
Pourquoi cette bataille?
Rendez-moi!
Pourquoi?
Pour la liberté, bien sûr.
La liberté.
Pour la gloire, bien sûr.
La gloire.
Pour l'honneur de la grandissime République. Et pour l'humiliation du turc païen.
Oh, regardez, la flèche bouge. Elle tourne et tourne comme un manège en folie.
Non, elle ne peut pas bouger.
Avec une petite plume, elle tourne.
Non!
Merveilleux homme qui s'agrippe à des vérités obscures.
Signora, mais que voulez-vous de moi?
La vérité, c'est tout. Juste la vérité. Maintenant, sors.
Vous êtes mauvaise. Vous êtes...
Mon carnet a croqué.
Où est
mangé mon carnet à croquis?
Déterré ainsi.
Je l'avais posé quelque part. Et puis...
L'horreur de ma...
qui menace la notion même de compagnie. Est-ce que c'est les problèmes d'argent qui fait que c'est difficile de monter des spectacles ou c'est plutôt les débats intérieurs comme vous avez évoqué de ce qui vous est arrivé à vous en tant que compagnie?
Non, ce qui menace, c'est le découragement de face à l'éternel recommencement de la course d'obstacles pour pouvoir monter un projet financièrement.
Ouais, chaque fois, c'est comme le jeu de loi. Chaque fois, on reprend l'échelle, paf, on passe par
en
bas. C'est terrifiant. Quoi.
Et
c'est...
on doit reprouver qu'on fait du bon travail. Voilà. Il n'y a pas d'accumulation, d'acquis, de confiance.
Absolument pas. Non, chaque fois, on l'espère. Hein. Chaque fois, on se dit, ah, mais cette fois-ci, quand même, ça sera plus facile.
Chaque fois, on y croit. Et
on aura quand même un peu plus d'argent. On va quand même pouvoir consacrer un peu plus de budget pour un décor peut-être un peu plus, etc. Et au fond, non, on est toujours en train de racler les fonds de tiroir pour que ça tienne debout. Alors, bon, c'est vrai, on peut dire parfois certaines contraintes stimulent la création et l'ingéniosité, mais à force, disons, ça sera plus le cas. Ça sera le découragement, ça sera peut-être même un peu d'amertume. On en est loin, heureusement, mais disons, c'est un peu l'épée de Damoclès, c'est ça.
Vous pouvez difficilement nous dire que vous êtes allé laisser tomber vos bras de... Parce que nous, maintenant, on y croit dur comme fer avec ce que vous proposez. Hein. On se dit, non, maintenant, avec Galaxia dans les yeux, on ne peut plus faire autrement que se dire, faut continuer, envers et contre tout. Hein. Alors, nous allons bien sûr maintenant aborder plus précisément le spectacle lui-même. Alors, au cœur de ce texte incroyable de Howard Barker, un personnage féminin, magistral, qui est Galaxia, justement, avec toutes sortes de prénoms absolument insensés pour ces personnages. On les découvre quand on lit la distribution, parce qu'ils se prénomment pas tellement, à part Galaxia et quelques personnages autour d'elle, qu'elle nomme, mais certains, on les découvre pas. Est-ce que on peut peut-être en faire... La liste, hein, comme ça, sous les yeux, je vois, par exemple, l'amant de Francisca alias Galaxia, donc que ce soit bien clair, s'appelle
Carpeta,
qui peut très bien être comparé comme un tapis sur lequel carpette. Elle se marche, s'adoucit la vie, etc., la carpette. Prodo, par contre, moi, ça ne m'inspire rien. Est-ce que ça veut dire...
Moi, ça m'inspire l'idée du preux chevalier.
Ah, voilà, Prodo est donc le rescapé de l'incroyable bataille qui est censée représenter la peintre Galaxia pour le compte donc de la République sérénissime de Venise, la bataille de Lépante qui a mis en affrontement Vénitiens et Turcs. Et les Vénitiens ont soi-disant gagné. Mais effectivement, Galaxia ne voit pas du tout de cet œil-là. Pour elle, c'est un massacre où tout le monde y a laissé des plumes épouvantables. Alors effectivement, Prodo est celui qui est un survivant avec une flèche qui est maintenue dans sa tête, plantée à Déternam, ses tripes à l'air, sa main, etc. On découvre l'horreur de la guerre par lui. D'une certaine façon. Et puis, il y a Urgentino, qui est le nom du doge.